Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Air Open, le podcast tennis de l'équipe. Pour ce quatrième numéro de la saison 2024, on s'intéresse aujourd'hui à Yannick Sinner, le joueur de ce début d'année. L'Italien de 22 ans a survolé le premier trimestre sur dur, que ce soit en extérieur ou en salle. Premier titre en grand chelem à l'Open d'Australie, en dominant Rublev, Djokovic, Medvedev à partir des quarts de finale. Titre à Rotterdam et titre au Masters 1000 de Miami. 22 victoires pour une seule défaite en demi-finale d'Indian Wells contre son grand rival Carlos Alcaraz. Sinner vient d'atteindre le deuxième rang mondial, le meilleur classement de sa carrière. Alors, va-t-il devenir le grand patron du circuit? A-t-il encore une marge de progression? Et surtout, quelle est son histoire? Pourquoi explose-t-il maintenant? Pour vous raconter le phénomène Sinner, j'ai à mes côtés Clémentine Blondet, rédactrice en chef adjointe Omnisport de l'équipe. Bonjour Clémentine, tout va bien?
Bonjour, tout va bene.
Et Bertrand Lagacherie, reporter à la rubrique tennis de l'équipe, qui est parvenu à rentrer de Miami malgré quelques soucis à l'aéroport, si mes infos sont bonnes. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Tout va bien?
Un peu décalé, mais ça va.
Voilà, vous avez le programme et le casting de cet épisode. Alors c'est parti pour Air Open. Pour commencer, ce qu'il faut savoir de Yannick Sinner, c'est qu'il est né à San Candido, dans les Alpes italiennes, dans le nord du pays, à deux pas de la frontière autrichienne. Et ça, Clémentine, ça a son importance, parce qu'au lieu de le voir briller à Melbourne ou Miami, on aurait pu le voir briller à Val d'Isère, à Adelboden ou à Garmisch-Partenkirchen.
Exactement, oui. En fait, il est né donc tout près de la frontière autrichienne, tout près de Lienz, donc où il y a une Coupe du Monde de ski tous les ans. Et lui, son truc, c'était plutôt slalom, slalom géant. Et jusqu'à 13-14 ans, enfin, il était dans les meilleurs de sa catégorie d'âge en Italie. Et puis, en fait, il a trouvé que jouer au tennis, c'était plus marrant. Mais c'est vrai que quand il a décidé de se consacrer au tennis à 13-14 ans, il jouait au tennis que deux fois par semaine. Et par contre, il faisait beaucoup plus d'entraînement de ski.
Il a été champion d'Italie dans la catégorie Benjamin en 2008 et vice-champion d'Italie en 2012 de slalom géant. Bertrand, physiquement, ce passif de très bon skieur, cette formation du corps finalement en tant que skieur chez les jeunes, aujourd'hui c'est un immense atout.
Bah, c'est un atout, vu son gabarit en plus, Sinner est un joueur qui se déplace très très bien. Et je pense qu'il a une souplesse, à la fois une souplesse et une force au niveau des jambes qu'il a hérité du ski. Petite anecdote aussi, justement, il a eu un peu peur au niveau du ski pour ses genoux, parce que la tendance actuellement au ski, c'est d'avoir des pistes qui sont verglacées, qui sont très dures, et de voir pas mal de ses copains revenir de compétition parfois avec des genoux en vrac, ça l'a aidé, disons, à franchir le pas aussi vers le tennis, où justement tout son entraînement le sert énormément. Oui.
Et ça l'aide au tennis aujourd'hui, il a dit. La mentalité du ski m'aide aussi. Parfois, je ressentais de la peur lors des descentes. Une erreur pouvait avoir de graves conséquences. Rien de tel au tennis. Si vous faites des erreurs, vous perdez et c'est tout. Du coup, cette mentalité me sert pour appréhender ce qui se passe sur le court. C'est intéressant. Et ce que tu me disais avant ce podcast, c'est ce côté italien du Nord, finalement, qu'on ne retrouve pas du tout chez Fonini ou chez Cecchinato ou Sonego, des joueurs comme ça. Toi, tu l'as vu un petit peu à Miami. Et il a ce côté italien du Nord, pas très démonstratif. Mais quand il est avec les siens, ça va mieux.
Ah oui, oui. Yannick Sinner, à la limite, s'il joue au poker, il a la poker face parfaite. On le voit très rarement montrer une expression, très rarement perdre le contrôle en conférence, quand il parle, il est en maîtrise totale. Mais pour ceux qui ont pu l'approcher et parler le dialecte originel du Tyrol, quand on est témoin de la scène, on voit un tout autre Yannick Sinner. On voit un jeune homme qui s'anime, qui a un visage beaucoup plus vivant. Effectivement, il a ce contrôle très, très italien du Nord. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit quelqu'un qui s'enflamme, qui s'emballe. Même si on commence à voir un petit peu plus l'humain derrière le joueur. Mais ça reste encore à petite dose.
C'est ce que j'ai demandé à Clémentine. Il y a quand même du progrès par rapport à son arrivée sur le circuit. Il y a plus de sourires. On l'avait vu jouer, il me semble que c'était à Indian Wells avec le petit de Rafael Nadal, un petit peu dans l'herbe. Ça va, ça commence à se lâcher un petit peu.
Oui, exactement. Bah, c'est vrai qu'au départ, il avait un côté vraiment fermé, presque robotique un peu. On se disait, en plus, on le voyait beaucoup sur les tournois au début, quand il n'était pas très connu. Il passait son temps à regarder du tennis. En fait, il avait une faim de regarder des matchs, mais même des premiers tours de double obscur où il y a 15 spectateurs dans la salle à Montpellier ou je ne sais pas où. Il en était parce qu'il avait cette faim de bouffer du tennis, vraiment. Et par contre, il était sur la retenue. Oui, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un de très expansif. Et je pense que ça ne deviendra jamais Nick Kyrgios. Mais on sent qu'il s'ouvre et qu'il, je pense qu'il comprend aussi maintenant la puissance qu'il a. Moi, j'ai été marquée par son discours à l'Open d'Australie, où il parlait notamment, il remerciait ses parents, le rôle qu'ils ont eu, et qui n'est pas du tout un rôle classique dans le tennis, où on a vu tellement de parents-coach qui, même parfois, obligeaient leurs enfants à jouer. Lui, il vient d'une famille de restaurateurs, donc ses parents tenaient un resto d'altitude à Sesto, donc près de la frontière autrichienne. Et en fait, ils étaient c'est des gros travailleurs, donc lui, ils l'ont toujours autonomisé. En fait, ils l'ont eu alors qu'ils avaient déjà adopté un enfant et qu'ils ne pensaient pas pouvoir avoir d'enfants naturellement, donc c'est un peu un cadeau de la vie, et du coup ils l'ont toujours laissé très autonome, ils l'ont laissé partir à 13-14 ans, mais en lui disant bah voilà, il aime raconter que quand il perdait des matchs, il appelait sa mère qui disait bon bah écoute, ça sera pour la prochaine fois, mais moi j'ai du boulot quoi. Et il a voulu passer ce message, et donc je pense que maintenant il voit à quoi peut lui servir la plateforme qu'est la sienne, parce que c'est un champion.
Et ses parents ne l'ont pas poussé dans le ski alors qu'il avait des très bons résultats. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, beaucoup de parents qui ont envie que leurs enfants deviennent professionnels, dès que ça marche dans un sport, ils ne vont pas lui dire à 14 ans, non, tu ne changes pas, tu restes où tu es. Ça, c'est une bénédiction pour lui. Et aujourd'hui, Bertrand, par rapport à ce Yannick Sinner qui s'ouvre un petit peu plus, et c'est presque une obligation sur le circuit qui devient de plus en plus un espèce de show permanent. S'il est refermé sur lui-même, sa cote de popularité finalement n'explosera jamais. Il pourrait y avoir un vrai déficit, notamment par rapport à Alcaraz, qui est quand même un showman sur le court.
C'est un risque en termes de popularité, notamment effectivement face à Alcaraz qui... C'était Medvedev qui disait justement à Miami, dès qu'Alcaraz est arrivé sur le circuit, il a tout de suite eu beaucoup de fans parce que son tennis est brillant, parce que lui, il sourit, parce qu'il est, on le sent, en train de s'amuser sur le court. Ce n'est pas encore le cas de Yannick Sinner. On ne le sent pas toujours en train de s'amuser sur le court, hein, même si ce sont surtout ses adversaires qui dégustent en ce moment. Mais oui, forcément, la popularité, elle va se construire au-delà du simple coup droit, du revers ou du service. C'est ce qui va laisser transparaître, c'est ce qui va donner au public, qui va faire de lui aussi, qui va établir son statut en tant que joueur populaire.
À Miami, il était soutenu dans le public. Tu sentais qu'il y avait quand même du monde derrière lui.
Alors, il y avait du monde derrière lui. Le problème, c'est qu'en finale, il était face à Dimitrov, qui était devenu le chouchou du public à 32 ans, l'éternel comeback. Le truc, c'est qu'en demi-finale et en finale, c'est allé tellement vite que forcément on prend un peu fait et cause pour son adversaire qui est en train de vivre un super mauvais moment.
Revenons un petit peu sur l'histoire, la progression d'Yannick Sinner. On l'a dit tout à l'heure, après le ski, on passe au tennis vers 13-14 ans. Il traverse l'Italie d'est en ouest et il intègre le célèbre Piatti Tennis Center, un centre où tu t'es rendu il y a quelques temps, Clémentine. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as découvert là-bas?
Alors, c'est à Bordighera, donc c'est à peu près à 25 minutes de route de Monaco, mais côté italien. Et c'est étonnant parce que c'est un centre qui ne paye pas de mine. Enfin, on est très loin de l'Académie Mouratoglou, ça n'a vraiment rien à voir. C'est quatre cours de tennis, donc c'est petit.
Deux couverts, deux extérieurs,
ouais,
c'est ça ?
C'est ça, tous en dur. Et après, en revanche, il y a vachement de technologie, on peut aérer comme on veut, les spots, enfin tout a été pensé pour que ces cours soient les mieux utilisés possibles. Et c'est un peu le credo de Riccardo Piatti, donc une légende en Italie et même dans le tennis mondial, c'est la qualité, quoi. On sent que ce qu'ils veulent faire là et ce qu'il a fait avec Sinner, donc qu'il a pris à 14 ans et qu'il a amené vraiment à la 9e place mondiale, c'est l'individualisation, la qualité et vraiment essayer d'accompagner le joueur sur des principes qui sont assez simples, mais vraiment en le guidant tout en l'autonomisant. Et je pense que c'est là où ça matchait assez bien, c'est que voilà, Sinner, finalement, quand il est arrivé, il logeait chez un des entraîneurs, parce qu'ils se sont dit à 14 ans, on ne va quand même pas lui donner un appart tout de suite. Donc il s'est retrouvé dans une famille adopté tout de suite, hyper content parce qu'ils avaient un chien et qu'ils jouaient avec le chien. Et en même temps, il s'est très vite pris en main. Enfin voilà, il fallait qu'il devienne autonome. Et c'est quelque chose que répète beaucoup Piatti, de dire sur un court, le joueur de tennis, il est seul, même si maintenant il y a un peu de coaching. Ouais. Voilà, il faut être capable de prendre des décisions seul, de réfléchir seul. Et donc, c'était vraiment son boulot de formateur.
On précise pour nos auditeurs, Piatti, au-delà de son centre, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien coach notamment de Djokovic, de Ljubicic, de Fognini, de Raonic ou encore de notre Richard Gasquet, donc c'est un joli CV. Ce centre et cette formation des joueurs, c'est très axé sur la technique notamment. Bertrand, tu l'as vu de très près à Miami, mais on le sait depuis que Sinner est arrivé sur le circuit, techniquement parlant, c'est parfait.
Ah, il a aucune faille, il est que ce soit en coup droit, en revers, en service qu'il a énormément travaillé. C'est un coup qui continue à travailler d'ailleurs. Hein. Il n'a pas hésité en cours de saison, il y a quelques années, à changer ses appuis. Et puis il est revenu l'an dernier à ses appuis originaux. Il a continué à travailler et maintenant c'est devenu une arme terrible. C'est un joueur qui est capable d'avancer et de finir des points au filet. Un petit peu justement... puisque la rivalité est déjà là, c'est un jeu aussi enthousiasmant que celui d'Alcaraz, parce qu'on sent qu'il peut tout faire sur un court, quoi.
Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas en cette année 2024, mais l'année dernière, il tendait son cordage, il avait une tension à 28, ça lui offre un très bon contrôle de balle, mais c'est la preuve surtout que son timing et sa technique sont absolument parfaits, ça ne laisse pas trop le droit à l'erreur. Voilà pour la partie technique de Sinner, on avance un petit peu dans le temps, il est perçu, de toute façon, depuis les années... Junior comme un très grand espoir italien, mais il décide de très peu jouer sur le circuit junior. Tu l'as interrogé là-dessus, Bertrand, après l'Open d'Australie. Pourquoi ce choix de sa part de très peu jouer chez les juniors ?
En fait, il n'en voyait tout simplement pas trop l'intérêt parce que pour lui, il estime qu'on progresse quand on joue contre meilleur que soi. Donc, sur le niveau junior, il a fait quelques tournois, il a vu qu'il avait le niveau pour les remporter. Oui, il le dit, j'aurais pu faire quelques grands chelems en junior, ça m'aurait apporté des titres, mais j'ai préféré tout de suite aller sur les challengers parce que là, ou les futurs, parce que là, je jouais contre des gars qui étaient sur le circuit depuis plusieurs années, qui étaient plus forts que moi, qui tapaient plus fort que moi, et j'étais obligé de trouver des solutions.
C'est déjà une preuve de l'intelligence, Clémentine.
Oui, et puis ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de Sinner, c'est qu'il a grandi très tard, en fait. À 17 ans, il faisait 20 cm de moins que maintenant. Donc sa poussée de croissance a été très tardive. Donc il a beaucoup perdu, en fait, quand il était gamin. Il a eu un record de précocité après, quand il est arrivé sur le circuit, en passant très vite un tour à Rome en Master 1000. Mais voilà, il n'était pas à 16 ans, il ne pouvait pas vraiment faire le poids, quoi. Donc ça a joué aussi parce qu'il a beaucoup appris de ses défaites, il s'est beaucoup remis en question. C'est quelque chose qu'il a encore aujourd'hui.
Mais ça dit beaucoup du joueur d'aller jouer des futurs au fin fond de je ne sais quel pays. C'est déjà la preuve déjà d'une grande intelligence et d'un grand plan de carrière, mais surtout d'une force mentale au-dessus de la moyenne.
Clairement. Et puis, je pense que là, il était bien entouré, bien accompagné. L'Italie a aussi une grande chance, un peu comme la France, c'est d'organiser énormément de tournois, énormément de challengers, énormément de futurs même. Et donc, forcément, quand on est italien, qu'on est coaché par Piatti, qu'on est un peu identifié comme un talent, on arrive aussi à avoir des wildcards et à pouvoir jouer des challengers, même quand on n'a pas encore le classement.
Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on sent vraiment chez Sinner, c'est qu'il y a un projet. Il y a un projet à long terme. Et que dès le début, il s'est investi à fond dedans et qu'aujourd'hui encore, il réfléchit à ce projet pour voir comment devenir le meilleur. Mais c'est pas, rien ne s'est fait sur un coup de tête, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment le côté, on va dire, allemand-autrichien qui parle, mais c'est réfléchi. Le projet Sinner est très réfléchi.
C'est réfléchi et en même temps, il prend des décisions qui parfois de l'extérieur sont hyper surprenantes. On a parlé de son changement de la position du pied au service qu'il a fait en pleine saison. Enfin, c'est quand même pas quelque chose qu'on voit souvent. Lui-même a dit après, oui, peut-être que j'aurais dû faire ça. J'aurais peut-être dû faire ça à l'intersaison. Moi, ouais. Il l'a fait pendant Wimbledon, donc c'est vraiment le milieu de la saison. Et même sa décision de quitter Piatti, finalement, était super surprenante parce que ça marchait bien. Il avait fait au moins un quart en Grand Chelem. Il était rentré dans le top 10. Et il est parti à un moment où ça a vraiment étonné tout le monde pour aller rejoindre Simone Vagnozzi. C'est un bon coach, mais qui n'avait pas le même pédigré. Donc, c'est une force quand même aussi de savoir prendre des virages Et après, il avait dit à notre confrère, enfin notre collègue Quentin Moinet, qu'en italien, on disait se jeter dans le feu. C'est-à-dire, je réfléchis, mais alors par contre, quand j'ai décidé, bah, je me jette dans le feu, j'y vais, quoi.
Des fois, certains s'y jettent sans même réfléchir, donc ça n'a pas toujours le même résultat. On reviendra un petit peu plus tard sur ce changement de coach en 2022. J'aimerais juste qu'on revienne sur, sur l'année de la révélation au grand public en 2019, ce qui en soi était, il n'y a pas si longtemps que ça. Le 1er janvier 2019, il est 551e au classement et 12 mois plus tard, il termine l'année 78e. C'est une sacrée progression. C'est là qu'on a vraiment découvert ce jeune Italien à la Tignasse Rousse qui est arrivé comme un chien dans un jeu de qui, Clémentine ?
Oui, moi je couvrais le tournoi de Rome 2019, le Master 1000 où il gagne, il passe un premier tour et il arrive dans le top 10 des joueurs les plus jeunes à avoir gagné un premier tour en Master 1000. Et c'est vrai que c'était très étonnant, donc on sentait évidemment, il y a beaucoup de journalistes italiens à Rome, donc on sentait une petite effervescence chez nos confrères. Et lui, il était super cool, quoi. Il n'avait pas l'air d'être impressionné, il n'était pas non plus en train d'exulter, de se dire « j'ai fait un truc incroyable ». Enfin voilà, on sentait que c'était l'étape, la première étape sur le chemin. Et je pense que lui, il savait déjà, déjà qu'il finirait le classement, enfin l'année bien bien plus haut au classement.
Est-ce que nos chers confrères italiens, souvent bouillants, n'étaient pas déçus d'avoir un joueur un peu froid?
Ben, je pense que c'est sûr, c'était aussi le moment de la progression de Berrettini, Matteo Berrettini, qui lui est vraiment le prototype un peu du joueur italien qui est romain, qui est brun, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément le même phénomène d'identification à Sinner. Mais bon, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu de vainqueur de Grand Chelem, encore plus longtemps que nous.
Ouais,
donc,
ouais, ils ont de la chance.
Donc ils prennent ce qu'ils ont, je pense, sans problème.
La progression de Sinner se poursuit, il établit régulièrement des records de précocité, on va pas tous les citer, mais pour résumer, il marche dans les traces des plus grands. En 2022, on arrive donc à cette séparation surprenante avec Riccardo Piatti, arrive à ses côtés Simone Vagnozzi, en coach principal Darren Cahill comme une sorte de consultant, et le préparateur physique Umberto Ferrara. Avant ce changement, Bertrand, on sentait un Yannick Sinner un petit peu frêle, un petit peu chétif face au tout meilleur. Et c'est un énorme travailleur et physiquement, depuis 2 ans maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est plus le même joueur.
Ouais, le travail fait par Ferrara a vraiment porté. D'ailleurs, Cahill l'a porté au nu après le titre à Miami, disant que c'est un génie. Sinner lui-même, déjà au Masters l'an dernier à Turin, quand on lui posait la question « qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Qu'est-ce qui fait que ça y est, t'en es là, t'as battu Djokovic, t'es en finale ?» Il expliquait que justement, c'était le travail physique. Que maintenant, il connaissait bien son corps, enfin. Et parfois, avec Sinner, on a l'impression que certains joueurs construisent leur jeu par rapport à leur physique. Lui savait très bien le jeu qu'il voulait avoir et il s'est construit le physique qui allait avec. Et ça change tout, ça donne quelqu'un qui est vraiment en maîtrise et qui continue à travailler, qui est toujours porté vers qu'est-ce qu'on peut faire pour que maintenant, ça aille mieux.
Et il trouve le bon équilibre parce qu'encore une fois, on va faire une comparaison avec d'autres Italiens, mais Berrettini par exemple, qui est quand même bien, bien sculpté, on va dire. Sinner, lui, j'ai lu dans les médias italiens en préparant le podcast, n'a pris que 3 kilos de muscles seulement, donc c'est pas énorme. Quand on le voit, c'est pas non plus un monstre physique comme peut l'être un Fuksovic par exemple. Il aime pas la salle de sport, il préfère bosser avec des raquettes et ballons. C'est important aussi de trouver le bon équilibre là-dedans pour travailler le physique.
Bah, c'est obligé. De toute façon, c'est important de trouver la méthode de travail qui correspond au joueur. Sinon, il ne va pas s'y consacrer tous les jours de l'année. On y reviendra peut-être après, mais ce qui est très important chez Sinner, c'est justement cette équipe qui est autour de lui. Vagnozzi, Cahill, Ferrara, c'est vraiment sa deuxième famille. Il a quitté sa famille à 13 ans, c'est très tôt. Il en parle assez facilement. Ça a été dur pour lui, ça a été dur pour ses parents. Sa mère ne vient pas le voir jouer. Son père vient le voir sur quelques tournois. Il n'était pas à Miami, par exemple. C'est quelque chose qui a marqué le petit Sinner. Et là, il s'est trouvé une deuxième famille. Il a un coach, Vagnozzi, qui est assez jeune, avec lequel il peut parler de choses parfois d'un jeune homme de 22 ans, de choses de sa génération. Et il a Cahill qui vient apporter une expérience un petit peu plus, qui vient lui parler d'un peu de choses avec un peu plus de recul, de le projeter aussi peut-être déjà vers l'après-carrière, de choses comme ça. Et puis il y a Ferrara qui le fait travailler. Et dès qu'il peut, il dit à quel point ces gens-là sont importants pour lui, parce qu'ils le connaissent comme mieux que sa famille, presque. Il passe toute sa vie avec eux et il n'en serait pas là sans eux. Et c'est vrai, tant le travail semble bien, bien étudié. Ouais.
Ce rôle de Darren Cahill, on voit de plus en plus de joueurs qui prennent des anciens... presque comme consultant, il est important, Clémentine, important d'avoir une personne comme ça à côté de lui.
Bah, je pense que ça donne beaucoup de confiance. Sinner dit qu'il se retrouve un peu dans la personnalité de Cahill, qui est un peu l'Australien, comme on s'imagine, assez calme, placide, qui met aussi beaucoup en avant l'humain. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui parle à Sinner. Et en même temps, voilà, quand quelqu'un qui a entraîné Agassi, qui a porté 8 à la première place mondiale, qui a entraîné Alep, qui a gagné un ou deux grands chelems avec Alep, vous dit quelque chose, je pense que ça porte forcément différemment. Et Cahill racontait notamment la discussion qu'ils ont eue après la défaite donc contre Djoko à Wimbledon. Donc Sinner mène 2-7-0 et puis en fait, il perd le match en 5-7. Alors on sait que c'est une défense de Djokovic, mais il était aussi rincé totalement physiquement à la fin du match. Et Cahill a raconté que voilà, il lui avait dit à la fin de ce match, là physiquement, c'est pas possible que tu ne tiennes pas comme ça, il va falloir mettre en place des choses. Et il a dit, mais tout de suite, il l'a absorbé, il l'a intégré et il a su faire ce qu'il fallait pour répondre à ça.
Ça tombe bien parce que c'était ma prochaine question. Ce match à Wimbledon en 2022, perdu donc par Sinner alors qu'il menait 2-7-0. Romain Lefebvre, qui était avec nous quand on a parlé du podcast sur les espoirs et la relève française, nous disait, il manque aux Français ce match, cette défaite fondatrice en grand chelem. Pour Sinner, c'est vraiment un tournant dans sa carrière.
Ah bah c'est sûr. Alors il y a eu aussi le match contre Alcaraz à l'US Open 2022, qui reste un match exceptionnel. Enfin, on s'est dit tout de suite, c'était un match qui rentrait dans l'histoire. Mais c'est vrai que Djoko, bah voilà, on sait que c'est la génération très nettement au-dessus. Donc ça faisait forcément rêver Sinner de jouer contre lui, même s'il l'avait vu un peu à Bordighera, parce que Djokovic qui habite à Monaco, il passe de temps en temps. Et c'est sûr que là, c'était la preuve, c'est écrite noir sur blanc, même s'il y avait la défaite au bout, qu'il était capable de faire ça. Mais même quand il joue son premier quart en grand chelem à Roland-Garros en 2020 contre Nadal, bon, il perd en 3-7, mais il sert pour gagner le premier set quand même contre Nadal à Roland-Garros. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Pas impressionné, on sent qu'il y avait quelque chose chez ce jeune Italien. Bertrand, derrière cette défaite et cette fin de saison 2022, il y a une saison 2023 superbe qu'il démarre à la 15e place et qu'il termine à la 4e avec une première demi en grand chelem à Wimbledon, mais surtout une énorme fin de saison. Son début de saison 2024, donc ce qu'on vit actuellement, ça vient de cette grosse fin de saison 2023.
Ah oui, on surfe tout à fait sur la même vague. Il y a quelque chose qui s'est débloqué, notamment au Masters, avec cette première victoire en poule face à Djokovic. Il était porté par toute une salle, par tout un public qui était fou derrière lui, quoi. Et il arrive à battre Djokovic, qui sort quand même d'une saison qui n'était pas si mauvaise que ça, quand même, et qui avait fait de ce Masters un objectif, de toute façon. C'est comme si ça s'était venu, cette victoire, en plus d'être un déclic, c'est comme s'il était venu récompenser tous les efforts qui avaient été faits depuis. Parce que voilà, il était déjà dans le top 10, il était qualifié pour le Masters, justement, il avait déjà fait des coups, mais il avait déjà calé contre Djokovic, il avait souvent calé contre les meilleurs. Et là, il passait un cap. Et même s'il perd en finale après, derrière... Clairement, il est sur la lancée, oui, bien sûr.
Oui, parce que derrière, cette victoire en demi-finale de la Coupe Davis contre Djoko encore, et Djokovic avait fait un vrai objectif cette Coupe Davis. Clémentine, il a passé un cap sur Djoko, ça y est, il a pris le lead puisqu'il l'a rebattu derrière en Australie.
Ah bah oui, là, on reste quand même sur 3 victoires en 4 matchs, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire ça par rapport à Djoko. C'est sûr qu'on a l'impression qu'il a pris un petit ascendant, et puis ça lui a permis aussi, même par rapport à Alcaraz, parce que finalement, Alcaraz, qui est un peu plus jeune que lui, Sinner a été le premier à battre des records de précocité, à s'installer un peu sur le circuit. Et puis, en fait, il s'est fait doubler par Alcaraz, qui a gagné l'US Open, qui a gagné Wimbledon. Et lui, était toujours à zéro titre du Grand Chelem. Et là, en fait, en tuant le père, entre gros guillemets, mais en arrivant à lui aussi montrer qu'il pouvait battre des joueurs, les top joueurs, dans des moments où ça compte vraiment... Bah, il s'est relancé dans une dynamique où on ne voyait plus trop, même en fin de saison. On se disait, là, il va gagner très vite un grand chelem. Même, je crois que tu l'écrivais, Bertrand, Alcaraz disait déjà au Masters, il va être numéro un mondial l'année prochaine. Enfin, c'est apparu comme ça, comme une évidence.
Ouais, Djokovic l'avait dit aussi, il me semble, sur cette fin de saison 2023. Il s'est imposé en plus en patron à l'Open d'Australie, vraiment. Bertrand, qu'est-ce qui t'impressionne chez ce Yannick Sinner d'aujourd'hui?
C'est un petit peu ce qui impressionne aussi tous les autres coachs à qui on peut parler quand on évoque le sujet. C'est cette capacité à jouer vite, parce que sa balle va très très vite, plus que de frapper fort. Parce qu'en fait, il a une technique qui est tellement fluide, on n'a pas l'impression qu'il force. Hein. C'est pas un bûcheron qui attaque la balle. Hein. Mais elle part super vite et il ne fait pas de faute. C'est-à-dire qu'il avait déjà cette capacité à jouer vite avant, ce qu'il avait emmené déjà où il était assez haut. Mais là, maintenant, il a rajouté le côté « Les gars, je ne fais pas de faute. Hein, donc,
débrouillez-vous.
Il va falloir venir me chercher. Hein. » Et on le voit, ça a permis d'inverser des tendances dans des face-à-face. On voit avec Medvedev, par exemple. Medvedev mène toujours 6-5, mais les 5 derniers matchs ont été remportés par Sinner. Donc, certains n'ont plus de solution face à lui.
Le bruit de sa balle à la frappe, c'est impressionnant.
C'est ouais quand même c'est on sent que c'est pas un amateur qui joue. Ouais.
Est-ce que Clémentine, tu le vois s'installer comme le patron du circuit?
C'est tout à fait possible. Là, on a tous torti nos calculettes après Miami pour se dire qu'en fait là il a très peu de points à défendre puisqu'il a fait un très mauvais Roland Garros, il a perdu au deuxième tour l'an dernier. Donc il peut être numéro un mondial après Roland Garros sans faire non plus des choses incroyables. Ça va évidemment dépendre aussi de Djoko. Mais la question, c'est aussi Alcaraz, parce qu'on voit cette rivalité qui s'installe. Ils ont déjà joué pas mal de matchs les uns contre les autres.
De sacrés matchs, d'ailleurs.
Ouais, en général, de sacrés matchs. Ce qui est frappant aussi, c'est leur amitié, en tout cas cette camaraderie. Enfin, on en parlait entre nous, les voir avant leur match à Indian Wells, discuter, papoter, quoi, juste avant de rentrer sur le court, c'est quand même pas quelque chose qu'on voit très souvent. Donc il va y avoir cette rivalité qui semble déjà installée et déjà quand même un cran au-dessus des autres de leur génération, comme Rune par exemple. Après, est-ce qu'il va réussir à être le patron sur la durée? Je dirais que ça dépend aussi quand même d'Alcaraz.
Sur les derniers mois, ces 6 derniers mois, c'est 13 victoires sur ces 15 derniers matchs contre des top 10. Il y a 2 défaites, c'est Djokovic au Masters et Alcaraz à Indian Wells. Donc ça vous place quand même un homme. En revanche, sur terre battue, c'est plus compliqué. 5 victoires sur 16 matchs seulement contre des top 10 sur terre battue. Une seule de ses finales sur 17 sur terre battue. 68% de victoires sur terre contre 77% sur dur. Bertrand, est-ce que sur terre battue, ça peut marcher, Yannick Sinner?
Oui, malgré tout, je pense que ça peut marcher. Après, il y a plein de conditions pour que ça marche. C'est sûr que s'il aborde, par exemple, en Roland-Garros, humide, avec une terre bien lourde, là, ça va être plus difficile pour lui. Ça va être plus difficile parce que, tout simplement, sa balle va aller moins vite. Son service va lui rapporter moins de points gratuits. Mais si on a un joli printemps en Europe et qu'il fait plutôt bon, il peut faire mal. Hein. C'est un petit peu la même problématique qu'avaient certains joueurs des années 90, comme Agassi, par exemple, avec une balle rapide. Mais sur terre battue, il fallait que la terre battue soit aussi rapide. C'est pas un joueur qui a un lift démesuré. Et donc, effectivement... Il n'a pas cet avantage. En revanche, il n'est pas gêné au niveau du déplacement, hein, parce qu'il couvre très bien son terrain, il glisse. On en revient au ski, effectivement. C'est en ça que le ski, toutes ces années de ski, l'aide au niveau des jambes. Le petit jeu de jambes, être toujours bien en flexion au moment de la frappe, ça, c'est. Quelque part, il l'avait déjà avant de se mettre au tennis. Mais la terre battue, il peut, mais c'est pas forcément acquis naturellement.
Est-ce qu'il reste une marge de progression dans son jeu, Clémentine?
Forcément, surtout quand on voit que c'est un joueur qui cherche tout le temps, quand on voit ce qu'on réussit à faire des joueurs comme Nadal ou Djokovic quand on les regarde à 20 ans et quand on les regarde à 35 ans, ça serait fou de dire qu'il n'a pas de marge de progression. On voit que le service, où il s'est beaucoup amélioré, ça reste un coût qui continue à travailler, peut-être qu'il peut encore gagner. Son coach parlait aussi de la tactique en disant qu'avant, c'est vrai qu'il avait beaucoup... beaucoup un plan A de je frappe fort et qu'après il n'avait pas forcément de plan B face à des joueurs qui arrivaient à le contrer, alors que maintenant c'est aussi un travail de dire bah parfois oui tu vas plus monter tu voilà, il a pas forcément comme Alcaraz a ces amortis qui distillent et qui peuvent un peu embêter quand même Sinner, donc évidemment il va encore progresser.
Ce côté peut-être un petit peu plus imprévisible dans son jeu, est-ce que ça peut être une carte à explorer pour la suite ?
Oui, pourquoi pas, mais après, il faut que ça corresponde à sa personnalité. Pour l'instant, il a un jeu, il a un tennis qui lui correspond complètement. Moi, je le vois bien faire comme Nadal. Nadal, c'est un joueur qui a su évoluer tout au long de sa carrière. C'était un pur terrien, il est resté maître de la terre battue, mais il a su orienter son jeu vers le dur. Il a gagné pas mal d'US Open derrière. Il s'est imposé en Australie. Il a su jouer sur gazon aussi, même si, OK, le gazon est ralenti. Mais c'est un joueur qui s'est posé la question de se dire, OK, bon, je maîtrise une surface, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour les autres ? Je vois Sinner dans ce même état d'esprit. C'est-à-dire, même une fois qu'il sera numéro 1, la question, ça va être, qu'est-ce que je peux faire pour le rester ? Là, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour y arriver ? Qu'est-ce que je peux faire après ? Qu'est-ce que je peux faire pour y rester ? Et j'ai l'impression que c'est... Il y a toujours une réflexion dans le bon sens du terme, vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur, quoi. Et voilà, le gars n'est jamais arrivé, en fait.
On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de points qui l'attendent à défendre sur cette saison sur terre battue. Il pourrait briller à Rome, en plus, puisqu'il aime jouer chez lui. Il avait gagné le Masters Next Gen à Milan en 2019. Il a fait la finale du Masters à Turin en fin de saison dernière. Bertrand, tu veux dire un truc là-dessus ?
Oui, alors, justement, par rapport à la terre battue... c'est ce qu'il a laissé entendre clairement à Miami, c'est que cette année, il se fixe des objectifs. Il se fait un objectif de la saison sur terre battue. Alors quand un joueur de ce calibre se fixe un objectif, en général, c'est pas des paroles en l'air, il fait quelque chose derrière. Rome, forcément, il a envie de le gagner parce que c'est chez lui. Il est très motivé par Monte Carlo, presque au moins autant, parce que c'est là où il habite. Et donc, il voudrait gagner à la maison. Et puis après, ben, bien sûr, il y a Roland Garros, quoi.
Elle va être excitante cette saison sur Terre parce qu'on a l'impression que tout est un petit peu ouvert finalement. Tu l'attends avec impatience. Est-ce que Sinner va briller, Clémentine ?
Bah, je ne vois pas pourquoi il ne brillerait pas. En plus, là, il est sur un matelas de confiance qui est énorme. C'est vrai qu'on voit que sa main n'a jamais l'air de trembler. Là. Au-delà de son nombre de victoires, je ne sais pas combien de sets il a perdu depuis le début de l'année, mais franchement, très très peu. Son chemin vers la victoire à Melbourne, il a gagné quasiment tous ses matchs en 3-7. Enfin, voilà, il a l'air d'être au-dessus du lot vraiment en ce moment, et je ne pense pas que c'est juste la terre battue qui va le freiner.
Un seul set perdu à Miami et deux corrections en demi et en finale pour finir le tournoi. Pour terminer ce podcast, il a la place de numéro 1 mondial en ligne de mire. Bertrand, Clémentine, il va l'être, c'est sûr et certain, dès cette saison.
Je ne vois pas pourquoi l'Italie n'aurait pas son premier numéro 1 mondial cette année. Ouais.
Clémentine.
Je suis d'accord, sauf évidemment grosse blessure imprévisible.
Évidemment. Voilà, c'était le mot de la fin de cet épisode consacré à Yannick Sinner. Merci beaucoup Clémentine Blondet.
Merci.
Merci Bertrand Lagacherie.
Merci.
Merci aussi à Léa Léostic pour l'enregistrement. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes d'Air Open. En attendant, vous pouvez évidemment aller écouter tous les autres podcasts de l'équipe.